qu'un enfant fit le même métier que ses parents, à une époque, c'est la nôtre, où il y a 95% de risque qu'il fasse un tout autre métier, voire qu'il change plusieurs fois de métier, voire qu'il fasse un métier qui n'existe pas encore, vous voyez ? Eh bien, ça, c'est extrêmement épuisant, parce qu'en effet, on doit sans cesse s'adapter, sans cesse changer. Rien ne m'épuise plus, moi. Alors, j'aime beaucoup mon travail, j'y trouve des joies. Souvent, mes élèves me défatiguent. J'arrive un peu fatigué au cours, et puis ça commence, et ils me font crédit, et je sors défatigué. Dans le livre d'entretien qu'on a fait avec Pierre Magnard, auquel Pierre Magnard a donné un titre absolument magnifique, « La couleur du matin profond », La couleur du matin profond. Pierre parle justement de ce bien que ses élèves lui ont porté pendant toute sa vie d'enseignant. Et modestement, j'éprouve ce genre de choses. Mais en même temps, dans mon boulot, on m'impose aussi de changer parce que, par exemple, il y a l'informatique. Et donc, moi, je ne suis pas un digital natif. Hein. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à ces machines. Je résiste d'ailleurs, regardez mon téléphone, hein. Bien sûr j'ai un téléphone portable, mais surtout, mais je suis bien obligé à l'université, alors j'apprends des logiciels, et quand j'ai enfin compris comment ça marche, ça y est, il me change tout. C'est épuisant, je n'en peux plus. Et en effet, vous savez, on doit s'adapter, c'est très fatigant. L'obsolescence des objets, ça fomente l'obsolescence de l'homme, en tout cas du monde dans lequel cet homme est né. Hein ? Oui, on demande aux gens de changer tout le temps. La figure de l'animal qui s'adapte, c'est le caméléon, vous savez. Or, on dit qu'un caméléon qu'on met sur un patchwork devient fou. Ben oui, c'est normal. Mais je dirais aujourd'hui que c'est pire. Je dirais que le travailleur d'aujourd'hui, c'est comme un caméléon qu'on met sur un kaléidoscope. Alors, il devient complètement fou. Et quand il devient complètement fou, il fait un burn-out. Parce que le patchwork a quand même une certaine stabilité. Il y a plusieurs couleurs, mais elles ne changent pas de place. Le kaléidoscope n'a aucune stabilité. Et donc, de plus en plus, oui, nous sommes pris dans ce monde qui s'accélère et ça fomente énormément de mauvaises fatigues, dont, en effet, le burn-out est la forme extrême. Et au travail, on en voit beaucoup qui essaient de suivre le rythme et puis qu'à un moment... ils essaient de cacher qu'ils ont un point de côté et puis à un moment, ils s'effondrent et c'est le burn-out. Et je crois, en effet, que notre société nous a progressivement enlevé ces moments de calme, de silence, de solitude, de repos, de nuit, d'inaccessibilité, où justement on reconstituait les forces qu'on avait perdues dans le travail. Quand un patron envoyait une lettre à son cadre le vendredi, il ne la recevait que le lundi, il était tranquille pendant le week-end. Maintenant, avec Internet, on est sollicitable à n'importe quel moment. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un téléphone comme ça, parce que ce téléphone-là, il y a les SMS, d'accord, mais il n'y a pas les mails. Donc, une fois que j'ai répondu aux SMS, si je suis dans le train pour un congrès à Marseille, pendant 3 heures, je lis, ou j'écris, ou je dors. Alors que je suis sûr que s'il y avait les mails, j'irais voir, et ça y est, il faudrait que je réponde, et j'arriverai à Marseille sans avoir lu une ligne, sans en avoir écrit une, et sans avoir dormi. La vie humaine, comme disait Hannah Arendt, n'est heureuse que s'il y a un équilibre entre la vita activa et la vita contemplativa, vous voyez ? Un équilibre entre les deux, entre le jour et la nuit, entre la vie collective et la vie solitaire, entre le bruit et le silence, entre l'agitation et le repos, vous voyez ? Or, je dirais que le champ du calme, du repos, de la solitude tend à se réduire comme peau de chagrin. Et résultat, on a de moins en moins de lieux, de moments pour reconstituer, reconstituer la nappe phréatique de soi, la nappe phréatique du soi. Une des métaphores de la fatigue, c'est l'épuisement, vous voyez ? Une autre, c'est l'essoufflement, hein, j'ai plus de souffle. Alors justement, on a un premier souffle, après on a le second souffle, on le cherche, mais c'est là qu'on a le point de côté. Une autre, c'est l'épuisement, c'est-à-dire que vous essayez de chercher en vous de l'eau, puis il n'y en a plus. J'ai vu une fois, justement, une pompe à eau, vous savez, qui essaie de trouver de l'eau, et il n'y en a plus. Ça fait un bruit horrible. Hein. Et bien, parfois, on cherche en soi, dans son corps et de son âme, et on est épuisé. Cet épuisement, je le vois en effet chez beaucoup de nos contemporains qui essaient de le cacher, et puis à un moment voilà il se révèle sur la forme du burn-out. Il faut en effet trouver ces lieux où on est épuisé, donc on n'a plus rien en soi. Le repos, c'est une façon de reconstituer la nappe phréatique de soi, hein, On reconstitue la nappe phréatique du soi. Et nous allons au repos, justement. Mais alors, dans le cas de mauvaise fatigue, le problème, c'est que même le repos ne défatigue pas. La mauvaise fatigue, c'est aussi la fatigue du dépressif. Vous voyez, il se couche tôt, il se lève tard, mais il se réveille tout aussi fatigué. Hein? La bonne fatigue, c'est enfin, la fatigue vraiment mauvaise, c'est pas qu'on a envie de s'arrêter, c'est qu'on n'a plus envie de commencer. C'est qu'on n'a même plus envie de commencer. Ou alors, commencer est un immense effort. Et alors, je crois en effet qu'il n'y a plus beaucoup de ces moments de calme, de solitude ou de repos, ou de silence. Alors là, je sais que je peste aimant la musique contre le fait qu'il y ait de la musique partout, du bruit partout. Je me souviens d'un apostrophe du début des années 80, c'est la grande émission littéraire de la télévision à l'époque, où Bernard Pivot interview Umberto Eco. Et Umberto Eco vient de parler à plusieurs reprises de la vie intérieure, la vie intérieure, la vie intérieure, la vie intérieure. Et à un certain moment, Pivot lui demande, mais Umberto Eco, qu'est-ce que c'est que la vie intérieure ? Et Umberto Eco fait semblant de réfléchir un peu et tout d'un coup, superbe, laisse tomber, la vie intérieure, c'est là où il n'y a pas les téléphones. Et il expliquait que pour écrire, il allait sur une petite île de Méditerranée où il n'y avait pas le téléphone. Ben, aujourd'hui, il n'y a plus de vie intérieure parce que le téléphone est partout. Et nous avons milité pour un droit à la connexion. Et vous savez que beaucoup de travailleurs aujourd'hui militent pour un droit à la déconnexion. Et alors, en effet, je crois vrai les analyses que nous a proposées Jonathan Crary, mon accent anglais est catastrophique, Jonathan Crary, C-R-A-R-Y. Mais ça se doit dire autrement. Ce Jonathan Crary a écrit un livre qui s'appelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le capitalisme à l'assaut du sommeil. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le capitalisme à l'assaut du sommeil. Et il est vrai, alors peut-être, c'est peut-être plutôt le néo-capitalisme, le capitalisme, mais qu'importe. Le néo-capitalisme voudrait qu'on consomme et qu'on travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et en effet, il y a une époque, pas si lointaine, où moi je ne pouvais pas consommer le dimanche. Parce que heureusement, les magasins étaient fermés. J'habite une toute petite ville où il n'y a aucun magasin, donc je ne pouvais pas consommer. Mais maintenant, avec Internet, on peut consommer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous voyez. On voudrait aujourd'hui que l'homme, en effet, consomme et travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et alors, comment remédier à ça ? Pour remédier à ça, eh bien, un philosophe, enfin, nommé Lafargue, a écrit à la fin du 19e siècle un livre qui s'appelle « Le droit à la paresse ». Le droit à la paresse. Lafargue était le neveu de Karl Marx et il a écrit un livre qui s'appelle le droit à la paresse qui part à peu près des mêmes conclusions que celles que fera 120 ans après Jonathan Crary, à savoir que l'économie capitaliste a tendance à épuiser les hommes et à vouloir en tirer la capacité de travail inlassablement. Bon, moi je pense que l'économie de marché est peut-être la pire à l'exception de toutes les autres. Hein, vous savez ce que disait Churchill de la démocratie, hein, c'est la pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Peut-être que l'économie de marché, l'économie capitaliste, peut-être pas l'économie néo-capitaliste, mais je ne suis pas un philosophe de politique, je ne sais pas. Ça, c'est terrible, mais l'économie, il faut distinguer entre libéralisme et néolibéralisme, hein, capitalisme et néo-capitalisme. Mais enfin, peut-être que cette économie capitaliste, c'est peut-être la pire, à l'exception de toutes les autres. Parce qu'on ne peut pas dire que l'économie communiste ait fait beaucoup de bien aux hommes. Ceci dit, elle a quand même tendance à ne pas savoir se limiter. Et Lafargue en fait le constat. Hein, que ces paysans qui étaient arrachés à un monde cohérent et qui se retrouvent dans les banlieues des villes pour devenir ouvriers, en effet, ne vont pas bien. Et il écrit « Ô paresse, baume des misères humaines, ô paresse, mère des arts et des sciences et des nobles vertus, ô paresse, sauve-nous de nos angoisses humaines. » Et il ajoute « Il faut paresser en toute chose, à part en buvant, en paraissant et en aimant. » Alors ce texte est un texte peut-être un peu ironique qui ne m'a pas du tout convaincu. Je crois qu'un peu de paresse, ça ne peut pas faire de mal quand même, mais pas trop. Car il y a chez le paresseux quelque chose qui me gêne beaucoup, cette manière qu'il a au fond de laisser les autres, de laisser aux autres le soin de porter le fardeau de l'être, hein. De laisser aux autres le soin de porter le fardeau du monde. C'est ça qui me gêne, cet égoïsme foncier du paresseux. Parce que la paresse et la fatigue, ce n'est pas pareil. Hein. Il ne faut pas confondre la paresse et la fatigue. Alors, moi, je dirais que la paresse, c'est une espèce de fatigue par anticipation ou une anticipation de la fatigue. Le paresseux n'est pas fatigué, Mais il ne va rien faire parce qu'il risque de l'être. Ce qu'il craint, ça n'est pas la fatigue, mais la possibilité de la fatigue. Voire pour les plus grands fainéants de la Terre, ce qu'ils craignent, c'est la possibilité d'une possibilité d'une possibilité d'une éventuelle fatigue. Alors, je crois qu'il vaut mieux... vous savez, Macron, justement, il s'en était pris aux paresseux, aux fainéants, ne voyant pas que parmi eux, il y a peut-être beaucoup de fatigués ou d'épuisés. Alors, il vaut mieux, comme disait Platon, subir une injustice que la commettre. Et je crois qu'il vaut mieux prendre un paresseux pour un fatigué qu'un fatigué pour un paresseux. Hein. Laissons-le leur bénéfice, le bénéfice du doute. Cependant, la paresse ne me plaît guère dans cette façon qu'elle a d'égoïstement. Hein. Le paresseux se love dans l'être, il s'y installe, il s'y prélasse, et il laisse aux autres le soin de porter le fardeau du monde. Dans la Corrèze, en effet, d'où je viens, il y a un personnage dans le petit village que je connais bien, qui n'a jamais rien fait de sa vie. Mais jamais rien, jamais rien, jamais rien. Il a toujours trouvé des prétextes pour que les autres fassent à sa place. Hein. Et récemment, il est revenu d'un petit voyage au Brésil avec une nouvelle compagne, plus jeune que lui, qui fait tout. Elle n'arrête pas. Et alors, ils sont retournés au Brésil pour voir la famille. Et il y est revenu sur des béquilles. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui t'est arrivé, Jacques ? Réponse de Jacques, l'anecdote est authentique, un accident de hamac. Alors, en effet, ce Jacques n'a jamais rien fait de sa vie. Et alors, des fois, ce Jacques, qui m'intrigue beaucoup, alors lui, il n'est pas fatigué, ça je peux vous l'assurer. Parce que ceux qui font burn-out, c'est ceux qui sont engagés. Hein. Celui qui est partisan du moindre effort, qui ne pense qu'à lui, il ne risque pas le burn-out. Le pire, c'est que ce sont les meilleurs qui risquent le burn-out, parce qu'ils veulent s'investir, ils veulent se donner. Puis il y a un moment où ils se donnent trop, ils sont dans la prodigalité plutôt que dans la générosité d'eux-mêmes. Il m'a fait un peu penser à un personnage, et c'est avec lui que je vais finir mon antistrophe, qui est Alexandre le Bienheureux. Dans le film d'Yves Robert qui date de 1968, on rencontre un personnage nommé Alexandre, joué par Philippe Noiret, que sa femme fait trimer, qu'elle fait travailler tout le temps. Alors dès qu'il souffre de somnolence diurne, donc il a tendance à s'endormir assez vite, et dès qu'il commence à s'endormir un petit peu, sa femme dit Alexandre, et elle claque dans les doigts. Alexandre, même le soir quand il se couche à côté d'elle, on voit qu'il est tout content de se mettre dans le lit, elle lui dit Alexandre, et elle lui réclame le devoir conjugal. Bon, le pauvre Alexandre est épuisé, et voilà que sa femme meurt d'un accident de voiture parce qu'elle conduit trop vite. Et il y a l'enterrement. Évidemment, tout le village, comme ça se faisait à l'époque, défile devant Alexandre, et tout le monde demande à Alexandre, à Noiret, « Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Alexandre ?» Et Alexandre de répondre
« Dormir. Dormir. Non. »
Et donc, il se couche. Il se couche avec un système, vous savez, de poulie qui fait descendre le saucisson, la bouteille de rouge, le tuba, parce qu'il joue de la musique. Bon, et il est heureux comme un prince. Alors tout le village dit, c'est scandaleux, vous savez, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et donc le travail serait le père de toute la vertu. Donc tout le monde dit, tu donnes un très mauvais exemple.
Non, je me couche, laissez-moi tranquille.
Alors ceci dit, je remarque que pour pouvoir... Alors, est-ce qu'il paresse là ? Non, il récupère le sommeil en retard. Il n'est pas du tout paresseux. Ceci dit, je remarque tout de même que pour qu'il puisse être là, dans son lit depuis des semaines, il faut quand même que quelqu'un l'y aide. C'est son chien. Hein ? C'est le chien.
Viens ici, le chien.
Car il attache un petit panier au chien, et le chien, avec un petit billet, et le chien va faire les courses. Et puis, il y a un moment où Alexandre dit
« Je me lève ».
Ah, alors tout le monde dit « Ça y est, il va revenir au travail. Hein, » bon. Mais il ne se lève pas pour travailler, il se lève pour contempler. C'est-à-dire qu'il passe des heures à côté du ruisseau à regarder les oiseaux, à admirer la nature. Et là encore, il ne paraisse pas. Et je crois que ça serait très bien qu'on ait un peu plus de temps. Il y a beaucoup de nos contemporains essaient de jardiner, font des marches, de la méditation, enfin, pour essayer de retrouver cette vita contemplativa que notre monde tend à nous faire perdre. Mais il y a un moment où Noiret va rencontrer une autre éternelle fatiguée qui est une jeune femme qui arrive au village, qui elle aussi souffre de somnolence diurne, Marlène Jobert. Et Marlène Jobert, en 68, est d'une beauté hallucinante. Et elle apprend qu'il y a un homme qui ne travaille pas et qui est tout heureux. Et elle veut le rencontrer. Elle lui dit « Vous, je vous trouve formidable. »
« Ah bon ?»
Et elle le trouve tellement formidable qu'ils vont tomber amoureux. Et alors, ils passent des heures à s'embrasser, à faire l'amour sous les meules de foin. Il lui apprend le monde. Et ils s'aiment tellement qu'ils vont se marier. Et ils arrivent devant le curé. Évidemment, le curé pose la question rituelle. « Alexandre, voulez-vous prendre pour épouse Marlène ici présente ?» Étonné qu'il est toujours un peu dans la lune, il n'entend pas la question, il ne répond pas. Tout le monde s'agite. Alors, on lui repose la question. « Alexandre ?» Et il ne répond toujours pas. Et à ce moment-là, on lui repose la question. Et à ce moment-là, Marlène va avoir le geste fatal, c'est-à-dire qu'elle va claquer dans les doigts, comme la première femme. Et là, Alexandre répond,
non,
non. Et il s'en va et il refuse le mariage avec Marlène Jaubert. Ce qui est scandaleux, enfin, bon, quand on a la chance. Mais surtout, c'est là que je le crois paresseux. Il n'était pas paresseux jusqu'à maintenant. Il récupérait du sommeil et il contemplait. Mais là, il devient paresseux. Parce que ce qu'il a, c'est-à-dire égoïste, car ce qu'il a refusé, c'est de se fatiguer pour elle. Et je crois que même si on peut être parfois fatigué des autres, quand même les plus belles fatigues auxquelles nous nous serions laissés aller dans nos vies, c'est les fatigues que nous avons données aux autres. Et l'amour, c'est pas toujours en effet facile, mais se fatiguer pour quelqu'un qu'on aime, essayer d'alléger son fardeau, essayer de faire en sorte que la vie lui soit un peu plus douce, c'est quelque chose qu'on fait sans calculer. Et là, vraiment, je crois que la paresse n'est pas du tout une solution à la fatigue. Elle est profondément égoïste et je ne crois pas qu'il y ait un droit à la paresse. Il y a un droit à la scolée, à l'osium, un droit à la disponibilité, un droit au repos, mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment de droit à la paresse. Et d'ailleurs, quand il dit « paresse, mère des arts et des sciences », ce n'est pas vrai du tout. Vous croyez que les grands scientifiques et les grands artistes paraissaient? Mais Mozart, par exemple, il a vécu 35, il n'a pas arrêté une seule seconde. C'est inlassablement qu'il compose, même quand il marche, même quand il joue au billard, aux quilles, il y a plein de musique, il est mort presque d'épuisement. Non, les grands arts et les grandes sciences, ce n'est pas fait par des paresseux. Alors ceci dit, je crois en même temps qu'il faut faire très attention à ce burn-out d'aujourd'hui qui est de plus en plus présent et il faudrait vraiment organiser notre société de manière à faire en sorte que les hommes retrouvent la possibilité d'avoir dans leur travail des formes, en tout cas, de bonne fatigue. En tout cas, de bonne fatigue. Et malheureusement, alors, évidemment, notre monde capitaliste étant inépuisable, il l'a compris. Et aujourd'hui, les gens des ressources humaines, des RH, déjà l'expression devrait être analysée, se disent, tiens, oui, mais si on les épuise, après, ils font des burn-out et du coup, ils ne travaillent plus, c'est plus rentable. Donc, vous avez dans les entreprises, aujourd'hui, des organisations du bonheur au travail. On vous met un baby-foot, on vous fait venir Christophe André pour de la méditation pleine conscience. Mais en fait, c'est un leurre parce que c'est se reposer pour mieux travailler. Alors que pour moi, le jeu, la contemplation, la lecture, c'est des fins en elles-mêmes. Hein. Ce n'est pas des moyens uniquement au service du travail. Alors oui, il y a malheureusement beaucoup de mauvaises fatigues aujourd'hui, mais je suis trop long, j'en arrive à l'époque finale. Je dirais que la plupart de nos fatigues sont entre cette bonne fatigue de la strophe et cette mauvaise fatigue de l'antistrophe, et que ces fatigues intermédiaires, je dirais que plutôt que de lutter contre elles, essayons d'en apprendre les leçons. De même que Couperin a écrit des leçons de ténèbres, nous apprenant que peut-être au cœur des ténèbres demeure une lumière, de même proposons des leçons de fatigue, façon pour moi de proposer qu'au cœur d'une fatigue assumée, à condition qu'elle ne soit pas la fatigue qui ruine, qui abîme de l'antistrophe, au cœur d'une fatigue pas trop mauvaise et qu'on arrive à assumer, peut venir l'invention d'un autre rapport à soi, aux autres et au monde. Et je crois en effet que les fatigues ont de belles leçons à nous apprendre. Je crois que la fatigue nous apprend l'humilité, qu'elle nous apprend le courage, qu'elle nous apprend que se donner, ça n'est pas se perdre, et qu'elle nous apprend la rêverie. Très vite, la fatigue nous apprend l'humilité. Et en effet, quand je me rends compte que je suis fatigué, je me rends compte que je ne suis pas un être infatigable, c'est-à-dire que je ne suis pas une machine. Les machines ne sont pas fatiguées. Elles s'usent, mais elles ne se fatiguent pas. Quand je comprends que je suis fatigué, je comprends que je ne suis pas une machine. Je ne suis pas Jupiter. Je ne suis pas un ange. Je ne suis pas un elfe ou un lutin. Tout personnage qui, pour des raisons différentes, ne connaissent pas la fatigue. L'elfe ou le lutin, ils ne connaissent pas la fatigue parce qu'ils ont une incapacité, une infatigable capacité métamorphique. Je sens que vous fatiguez un peu, moi aussi. Je vais donc m'arrêter très vite. Mais ils peuvent se métamorphoser. Mais le contraire de la fatigue, c'est la forme. Quand je ne suis pas fatigué, je suis en forme. Mais eux, ils sont tellement en forme qu'ils peuvent changer de forme. Et le lutin, l'elfe, peuvent se transformer en chat, en belette, enfin bon. Donc, ils sont infatigables. Les anges sont infatigables. Vous n'imaginez pas un ange, « Oh là, j'en peux plus, là, il y a le grand barbu qui m'a dit d'aller annoncer une nouvelle. » Il paraît qu'il se déplace à la vitesse de la pensée. C'est-à-dire très vite. Ça dépend pour qui, vous me direz, mais enfin, quand même, à peine l'ange a-t-il pensé qu'il devait aller là-bas, qu'il y est déjà. Les anges ne sont pas ubiquus, étant donné qu'ils ont un corps, il leur faut du temps pour aller d'ici à là. Mais ce temps est à peine un temps, car à peine ont-ils pensé qu'ils devaient aller là-bas, qu'ils y sont. Donc les anges ont quelque chose d'infatigable. Et puis les machines aussi. Ben non, je suis un homme fait d'humus, et la fatigue m'apprend l'humilité. Le Dieu qui a assumé l'humanité a connu la fatigue. Dans le christianisme, vous avez un épisode où Jésus est fatigué. Jésus au puits de Jacob. Hein, il a marché tellement longtemps qu'il se trouve sur... Alors le puits, là encore, c'est la métaphore de l'épuisement. Hein. Et il faut qu'un le plus humble des plus humbles, la Samaritaine, lui donne à boire de l'eau. Ben justement, quand j'assume ma fatigue, je me rends compte que je ne suis pas autosuffisant. Que je puisse tendre la main à quelqu'un en disant, tu sais, je suis fatigué. J'espère que je ne trouverai pas une main glissante de quelqu'un qui me dirait, ah bah tiens, moi je suis en retraité, ou tu te débrouilles, hein, ou c'est à toi de le faire. Non, l'humilité nous invite à comprendre qu'on n'est pas l'origine de notre souffle. Et quand je comprends qu'il n'y a plus de souffle en moi, je suis accueillant à la possibilité d'en recevoir d'un autre. Je me fais comprendre, hein. Donc elle nous apprend une belle humilité. La fatigue nous apprend le courage. Parce qu'un être jamais fatigué ne peut pas être courageux. Justement, pour être courageux, il faut qu'il y ait quelque chose à surmonter. Alors les philosophes disent que c'est la peur, mais on peut dire que c'est aussi la fatigue. La courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la peur surmontée. S'il suffisait de ne pas avoir peur pour être courageux, une pierre serait courageuse. Non, il faut justement avoir peur et dépasser sa peur pour être courageux. Même raisonnement pour la fatigue. Un être infatigable n'est pas courageux. C'est justement quand on est fatigué et qu'on donne quand même qu'on est courageux. Troisièmement, la fatigue m'apprend que se donner, ça n'est pas se perdre. Parce que je ne crois pas que se réserver, s'économiser, s'épargner, ce soit un bon remède à la fatigue. C'en est plutôt le symptôme que le remède. Car il faut vraiment ne pas aimer la vie pour s'économiser, se réserver, s'épargner. Et je crois que ceux qui, toute leur vie, n'ont pas pris le risque de la fatigue, eh bien, finissent leur vie assez pauvrement. Prenons le risque de la fatigue. Alors, il ne faut pas être prodigue de soi-même, il ne faut pas trop donner, sinon, en effet, on craint le burn-out. Mais quand même, se donner, ça n'est pas se perdre. Et moi, je dirais qu'il n'y a rien de plus beau, en effet, que le fait d'avoir donné quelque chose à l'autre pour adoucir sa fatigue. Et quand vous voyez que l'enfant à qui vous avez donné du temps, de la patience, et vous avez surmonté pour vous la fatigue que vous aviez de faire votre métier, ou la fatigue qui venait du fait que vous croyez avoir bien expliqué, puis il avait compris, ben non, il n'a pas compris. Oh là là, ce qu'il est pénible celui-là. Surtout qu'on est un après-midi pluvieux de novembre et que vraiment... Eh bien, allez, je vais reprendre autrement, et ça y est, vient sur le visage de l'enfant le... Ah, d'accord, dans ce cas-là, A est égal à C. Waouh. Enfin, la fatigue nous apprend la rêverie bachelardienne. Quand on ne lutte pas contre sa fatigue, mais qu'on l'écoute, on est dans une situation de rêve éveillé, vous voyez. Et à ce moment-là, on invente un rapport plus doux à soi-même, aux autres et au monde. Bref, face à la fatigue, soyons roseau et non pas chêne. J'ai commencé par La Fontaine, je termine par La Fontaine. Vous savez, la fable du chêne et du roseau, où le chêne méprise le roseau. Hein. Le moindre vent vous fait courber la tête. Tous mes zéphyrs, tous vous êtes aquilons. Zéphyr et aquilons sont des vents. Le zéphyr, c'est un tout petit vent. Ce n'est pas simplement le singe chez Zéphyr. C'est un tout petit vent chez Babar. C'est un tout petit vent. Tous mes zéphyrs, tous vous êtes aquilons. C'est-à-dire qu'en effet, même un tout petit vent fait plier le roseau. Alors que, etc. Et alors, au moins, si vous naissiez sous mon ombrage, vous seriez protégé. Et le roseau dit, non, mais ne vous inquiétez pas, je plie. Mais ne rompt pas. Et à ce moment-là arrive le vent le plus terrible qui arrive du nord, le roseau plie, le chêne résiste, mais finalement il est déraciné. C'est comme la vieillesse, hein, les gens qui disent « moi vieux, jamais, moi fatigué, jamais ». Tu verras, la fatigue et la vieillesse te viendront, elles te feront beaucoup plus de mal du fait que tu n'auras pas écouté qu'elles font partie de ta condition. Plutôt que de refuser la fatigue, assumons-la, car assumer la fatigue, c'est assumer sa finitude, c'est assumer sa condition humaine. Et justement, la fatigue, bah, des fois, je ne lutte plus contre elle. Elle me fait plier. À ce moment-là, je suis dans un état de décantation qui adoucit le rapport que j'ai à moi-même, aux autres et au monde. Et La Fontaine disait qu'à cause de la peste, ni loup ni renard n'épillaient plus la douce proie. Ben, on pourrait dire que la fatigue peut faire la même chose, parce que les prédateurs, les méchants, ils sont infatigables. J'aurais bien aimé que de temps en temps, justement, le loup et le renard soient un peu fatigués. Et du coup, la douce proie passe et ils ne lui sautent pas dessus. La fatigue peut être une très belle chose quand elle n'est pas la mauvaise fatigue que j'ai dite. J'espère que mon exposé ne vous a pas trop fatigué. Merci de votre attention.
Merci, Éric Fiat. À travers ces applaudissements, vous bénéficiez à l'évidence d'une restauration de la fatigue que vous commenciez, disiez-vous, à éprouver, et pouvoir tirer de cette fatigue tous les avantages que vous nous avez brillamment décrits, avec cette créativité langagière qui vous caractérise, toutes ces références poétiques, littéraires, philosophiques qui alimentent notre pensée et donnent du jeu à nos représentations surtout. Alors, ce temps-là est évidemment un temps essentiel et je crois qu'après avoir eu quelques doutes sur le point de vue des organisateurs qui pensaient qu'il ne fallait pas de pause, mais avec ce que vous venez de nous apporter, finalement, une pause serait presque du temps perdu par rapport à la possibilité de poursuivre nos échanges avec le public, avec vous. Et je voudrais juste ponctuer, n'étant évidemment pas philosophe, mais je dirais très simplement pédopsychiatre, quelques éléments qui me sont venus à l'esprit en vous écoutant, mais très rapidement. La fatigue, comme beaucoup de symptômes, c'est un signal. Ce signal, quel sort lui réserve-t-on? C'est toute la question qui va se poser à nous, les soignants, les enseignants qui ont affaire à des enfants ou des adolescents qui peuvent manifester évidemment des signes flagrant de fatigue. Comment prend-on en compte ce signal? Je pense que vous y reviendrez évidemment tout à l'heure aussi dans votre intervention. L'idéal dont vous nous avez parlé, qui serait de ne pas connaître la fatigue, évidemment est un idéal inatteignable. J'aurais tendance à penser que la fatigue, ce serait plus une inadéquation entre les investissements que nous avons à un moment donné et la possibilité de les réaliser. Quand ce que nous souhaitons faire, ce que nous souhaitons mettre en œuvre, se trouve empêché, et ça fatigue quand même beaucoup, et que l'autre question qui se pose, c'est la tentation contemporaine de trouver des remèdes à tout. Il faudrait qu'on ait des réponses à tout. Contrairement à ce que vous nous avez ouvert comme horizon, questionner est aujourd'hui politiquement, éducativement, considéré comme incorrect. Il faut des réponses. L'exercice médiatique auquel vous vous prêtez, comme moi parfois, on nous demande des réponses. Pourquoi si, pourquoi ça? Et si on a le malheur de répondre, mais attendez, c'est assez compliqué, j'aimerais bien d'abord vous exposer la complexité de votre question. Non, la réponse, et une réponse si possible, pas plusieurs. Eh bien, du coup, les remèdes qui sont recherchés sont des remèdes qui répondent à court terme. Je pense, dans le domaine qui me concerne, du recours que beaucoup vont avoir à des produits psychoactifs ou, à défaut de s'en procurer sur le marché extérieur, de s'en procurer sur le marché intérieur par le biais de la fabrication d'endorphines avec des exercices sportifs intensifs, par exemple. Comment va-t-on d'autres vont recourir au repos, vous l'avez parlé. D'autres vont chercher dans la luminothérapie ou dans je ne sais quelle autre approche, chacune d'ailleurs remplaçant la précédente allègrement d'un jour à l'autre, les remèdes à la fatigue qui effaceraient cette fatigue pour pouvoir la faire disparaître comme si ça n'était pas utile. Et là, je suis très heureux que vous ayez pu souligner dans cette ode l'utilité que pouvait avoir la fatigue et le respect de ce signal que notre organisme nous envoie. Et c'est aussi une des caractéristiques contemporaines que l'irrespect des messages que notre corps ou notre organisme nous envoie. On voudrait être plus puissant que ça. L'autre point, et puis j'en ai presque fini dans ces quelques remarques, c'est comment accueille-t-on, nous, les adultes professionnels, comment accueille-t-on la fatigue? Puisque cette fatigue, quand elle est évoquée ou manifestée par l'autre auquel nous avons affaire, va susciter ce que nous appelons couramment les contre-attitudes. Ces contre-attitudes sont extrêmement fortes en fonction de notre propre degré de fatigue, de notre propre disponibilité. Est-ce qu'on va plutôt trouver que c'est abusif, cette évocation de la fatigue par l'autre? Va-t-on éprouver de la compassion? Et dans ce jeu relationnel entre l'autre et nous, à propos de la fatigue, là, il y a quelque chose aussi à déceler qui peut être tout à fait intéressant. J'insiste beaucoup auprès des professionnels de soins sur l'attention que nous portons, que nous devons porter à ce que nous vivons, ce que nous ressentons, ce que nous éprouvons face à l'autre dont on s'occupe, dont on a la charge, et que ces ressentis, ces éprouvés, sont une manière finalement assez précieuse pour pouvoir identifier ce que l'autre peut vivre aussi de son côté. Pas seulement ce que l'on observe, ce que l'on entend, mais aussi ce que l'autre nous fait éprouver. Et il n'est pas rare que l'autre, quand il nous fait éprouver tout à coup un sentiment de grande lassitude, d'inutilité à nos interventions, d'agressivité ou d'extrême compassion, nous révèle quelque chose de son propre rapport au monde, aux autres et à lui-même. Et enfin, je dirais, quand la maladie est là, et évidemment, vous ici présents, vous intervenez auprès d'enfants, d'adolescents qui sont affectés par des maladies, et souvent des maladies extrêmement graves, eh bien, la fatigue, évidemment, prend une autre allure. Et que l'énergie que ces jeunes vont avoir à déployer pour lutter contre ce qui les envahit sur le plan pathologique va être une énergie qui va créer évidemment une fatigue en conséquence très importante. Alors je terminerai en disant qu'à partir de vos exercices professionnels en tant qu'enseignant comme des nôtres, un des points qui me paraît fondamental aujourd'hui par rapport à ces changements du monde que vous évoquiez, cette immédiateté, cette incapacité de s'adapter à un environnement qui évolue tellement vite sans que les transmissions entre générations puissent faire leur effet, eh bien, là, le facteur discriminant essentiel, et là on a une intervention très importante à avoir, ça va être le facteur qui dépend de la capacité de jeu. Quelle capacité de jeu avons-nous ? Avons-nous pour relativiser, comme l'on dit, pour prendre une distance, pour avoir du jeu par rapport à ce qui nous affecte et par rapport à ce qui les affecte ? Comment vont-ils pouvoir retrouver, pour certains, trouver une capacité de jeu suffisante avec leur réalité actuelle ? Et finalement, vous, les enseignants, comme nous, les soignants, nous allons utiliser ce que l'on appelle des médiations, des situations intermédiaires qui vont permettre de retrouver du jeu dans la pensée, de retrouver une certaine curiosité dans le rapport à l'autre, c'est dans la relation à l'autre, de jeu avec les connaissances, du jeu avec un certain nombre de médiations, et que finalement, nous offrons des prétextes pour restaurer, dans un bon nombre de cas, cette capacité de jeu qui est évidemment, je pense, un des remèdes très importants à tout ce que vous avez pu souligner comme difficulté que l'on peut rencontrer par ailleurs. Alors je vous propose peut-être de prendre un petit temps avant les deux interventions suivantes, un petit temps pour discuter avec Éric Fiat à partir de ce qu'il nous a apporté. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas, on a souhaité que cette matinée soit vraiment sous le signe de l'échange.
Oui. Bonjour monsieur, je m'appelle Victoria, je suis arrivée un peu en retard donc j'espère que vous n'en avez pas parlé. Vous avez fait la différence entre fatigue de l'âme et fatigue du corps. Ma question est, comment on règle une fatigue du corps quand le sommeil est douloureux, pas réparateur, plein de somnambulisme ou de terreur ou d'angoisse? Donc ça devient une fatigue de l'âme, donc une mauvaise fatigue. Comment on règle une mauvaise fatigue par un mauvais sommeil? Voilà.
Patrice s'inquiétait d'un monde où ceux qu'on interroge doivent toujours donner des solutions, doivent toujours donner des réponses. Vous pensez bien que je n'ai pas vraiment de réponse ou de solution à cela. C'est ça le drame de la mauvaise fatigue, c'est que même le repos ne lui est pas remède. Car Celui qui connaît la bonne fatigue va dormir du sommeil du juste, alors que celui qui connaît la mauvaise fatigue va dormir de ce que j'appellerais le sommeil de l'injuste. Et en effet, le mauvais sommeil, comme vous dites, c'est alors un sommeil traversé de moments d'insomnie, où quand on est insomniaque, eh bien, on cherche une place fraîche sur l'oreiller, mais la place fraîche sur l'oreiller ne le reste jamais très longtemps, où on élabore toute une série de stratégies, on compte les moutons, enfin, je ne sais quoi, moi, on se récite les livres de l'ARS, l'Agence Régionale du Soin, il n'y a rien de plus ennuyeux, bon, et puis ça ne marche pas. Et alors, donc la mauvaise fatigue, c'est le repos dont on se réveille souvent, c'est aussi le repos dans lequel on tombe comme une masse, vous savez. Parce que parfois, ceux qui sont vraiment extrêmement fatigués, alors ils alternent les nuits où ils ont plein d'insomnie, puis alors quand ils ont vraiment plein d'insomnie, qu'ils sont complètement épuisés, tout d'un coup, ils vont une nuit tomber comme une masse. Mais ce n'est pas mieux. Parce que quand on se réveille, on ne sait plus où on est, voyez. Et alors que le sommeil devrait reconstituer la nappe phréatique de soi, c'est une façon de se destituer de soi pour se reconstituer soi, ben il ne joue pas ce rôle-là. Alors, à ce moment-là, oui, ça engendre une fatigue de l'âme, une lassitude, parce que c'est vrai que les produits dont parlait Patrice, oui, ils peuvent à court terme faire du bien, la vitamine C, le ginseng, le magnésium, et vous avez raison, à chaque fois, quand on se rend compte que c'est plus efficace, ça y est, la publicité, la pharmacologie, vous dire, on a trouvé de nouveaux produits, ça ne marche pas mieux. Parce que ces produits-là peuvent peut-être en effet aider celui qui connaît une fatigue passagère, une fatigue simplement du corps, mais quand il y a une fatigue de l'âme, et on ne remédiera pas à la fatigue d'être soi avec ces produits-là. On ne remédiera pas à la fatigue d'être, c'est encore pire, la fatigue d'être avec ces produits-là. Et même le sommeil, quand il est mauvais, ne remédie pas à ces fatigues-là. La fatigue d'être soi, c'est Alain Ehrenberg qui a écrit un livre là-dessus, mais il y a aussi la fatigue d'être, c'est beaucoup plus radical. Nous n'avons pas demandé à être, et nous n'avons pas demandé à être comme nous sommes, sinon nous demanderions tous des modifications. Et nous n'avons pas demandé à mourir. Bon, c'est le cas de tous les vivants, ils auraient pu ne pas être, ils ne seront plus, mais nous, ce qui nous différencie des autres vivants, c'est que nous savons que nous aurions pu ne pas être et que nous ne serons plus, ce qui n'est pas le cas de la rose, ce qui n'est pas le cas du chat, enfin je crois. Nous ne savons que nous aurions pu ne pas être et que nous ne serons plus. Résultat, nous nous demandons si notre existence vaut le coup. J'aurais pu ne pas être, est-ce que ça vaut le coup que je sois? Je ne serai plus, est-ce que ça vaut le coup que je sois encore? Chaque être humain s'interroge sur sa dignité d'être, sur sa légitimité d'être. Je crois que nous souffrons tous du syndrome du survivant. Je parle sous le contrôle de Patrice. Les psys ont inventé cette notion très intéressante, le syndrome du survivant, qu'on trouve, vous savez, chez les quelques juifs qui sont tziganes, qui sont revenus des camps. Chez le seul membre de la famille qui n'est pas mort dans l'accident de voiture où toute la famille est morte, qu'on trouve chez la sœur jumelle qui a survécu à la mort du frère jumeau. J'ai une étudiante qui a souffert de ça longtemps. Sa mère attend des bébés, des jumeaux. Elle met au monde un petit garçon qui meurt tout de suite. Elle met au monde une fille, c'est elle, elle vit. Ben longtemps, elle a souffert du syndrome du survivant. C'est le pourquoi moi, hein, c'est ce que j'appellerais le sentiment d'une existence usurpée. Le sentiment d'une existence usurpée. Est-ce que je n'ai pas pris la place de quelqu'un? Ben, je crois que nous en souffrons tous, non pas psychologiquement, mais métaphysiquement. Et alors j'espère que le fait de savoir que vous auriez pu ne pas être, alors que vous êtes, provoque en vous chez eux, la joie. Oh, j'aurais pu ne pas être, si mon père n'avait pas rencontré ma mère, si ça n'avait pas été ce spermatozoïde-là qui serait arrivé en premier à l'ovule, ça, j'aurais pu ne pas être, je suis, mais quelle chance, la vie est un cadeau. Je ne serai plus parce que je vais mourir un jour, mais je suis encore, quelle chance, la vie est un cadeau. Ça, c'est le sentiment d'une existence cadeau. Mais ce qui conduit souvent à la fatigue de l'âme, c'est le sentiment d'une existence fardeau. J'aurais pu ne pas être, je suis. Est-ce que ça vaut le coup? Gainsbourg a fait chanter à Birkin ces vers magnifiques. Avec cette difficulté d'être, il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. Et puis, je ne serai plus, est-ce que ça vaut le coup que je sois encore? Avec cette difficulté d'être, il vaudrait mieux que je sois déjà plus. Et alors là, en effet, même le repos n'est pas un remède à cela. Peut-être que l'idée, c'est en effet de ne plus chercher le remède. Hein? En tout cas, de ne plus le chercher en soi. Et quand on tombe, la fatigue, c'est pas quelque chose contre quoi on peut lutter, parce que on peut lutter contre un ennemi quand il se présente face à soi, voyez.
Ainsi, David l'emporte contre le puissant Goliath, parce que Goliath est en face. On peut se battre contre son cancer. Quand, au début, quand on sait bien ce qu'on a, vous voyez, quand on a pas mal encore ça, on peut dire tel François Mitterrand sortant de l'hôpital Cochin en 92, c'est un combat honorable à mener contre soi-même. Mais en fait, souvent après, quand on a vraiment un cancer, et surtout quand on a une chimio ou un truc comme ça, on est tellement épuisé qu'on n'est plus dans les métaphores du combat. Vous voyez ? Donc, pourquoi toujours vouloir combattre ? Écoutons ce qui se passe. Et alors, quand, en effet, la métaphore de la fatigue, pour moi, c'est les sables mouvants. Vous savez, vous enfoncez, le corps s'enfonce, la tête essaie de surnager, mais il y a un moment, elle passe avec le reste. Et vous savez que tous les efforts qu'on fait pour ne pas sombrer dans les sables mouvants nous font sombrer plus vite. C'est ça le problème de la fatigue, c'est que tous les efforts qu'on fait pour lutter contre la fatigue sont fatigants. Et alors, il y a en effet des gens qui... Le baron de Munchausen, qui est un héros magique, comment il se sort des sables mouvants de la fatigue ? En se tirant lui-même par les cheveux. Et donc, il se tire par les cheveux, petit saut périlleux, ça y est, j'ai trouvé un remède. Fatigué, moi ? Non, ça y est. Ce qui prouve qu'il avait des cheveux et non pas une moumoute ou rien du tout. Mais non, on ne se sort pas des sables mouvants de la fatigue par un héroïsme de la volonté. Ce dont nous avons besoin quand on est sable mouvant, c'est trouver une branche ou quelque chose. Et bien moi, ce dont nous avons besoin à ce moment-là, c'est de la main d'autrui. Que je puisse dire à l'autre, j'en peux plus et je ne trouve plus de remède. Et que l'autre, à ce moment-là, me donne la main. Et là, à ce moment-là, on trouvera peut-être ensemble comment échapper à ce sentiment d'une irrémédiable mauvaise fatigue.
Mais, si je peux me permettre un petit mot sur un terrain totalement différent. La question du sommeil, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais c'est un thème qui a évidemment un rapport avec la fatigue, vous le soulignez bien. Et c'est un thème qui est totalement méconnu en termes de santé publique. Et en particulier, quand on s'occupe d'enfants et d'adolescents, on voit comment les modèles ambiants, les représentations médiatisées de combien de temps on a besoin de dormir pour se restaurer, etc., sont des modèles qui vont laisser penser à ceux qui ont du mal à dormir ou qui dorment beaucoup, qui dorment peu, qu'ils ne sont pas dans la norme. Et là, on va revenir aussi à la difficulté actuelle de permettre, qui est telle que, comment faire pour permettre à chacun d'identifier ses besoins, sa manière de dormir, ses besoins en sommeil, qui seront différents des autres, y compris dans la temporalité du sommeil. Et les rameurs le savent bien, ils n'ont pas dormi, à mon avis, 10 heures d'affilée, ou alors, ils nous le diront peut-être, mais ça m'étonnerait. Et donc, on va adapter et on va être à l'écoute des signaux, là encore, que son corps envoie. Et peut-être quelquefois, quand on a du mal à dormir la nuit, parce qu'on est trop douloureux, parce qu'on est trop angoissé, etc., bah peut-être dans des petites plages horaires, pendant la journée, on s'octroiera 10 minutes, un quart d'heure de sommeil, au moment où on sent qu'on a sommeil, et non pas une demi-heure après, pour ne pas laisser passer le train du sommeil. Et on va pouvoir ainsi transitoirement équilibrer. Je crois que c'est vraiment très important d'être sensible là aussi, et chacun peut l'être au moment où il sent que le sommeil pourrait venir. Eh bien, 90 minutes plus tard, ça va repasser. Si on essaye de prendre le train alors qu'il n'est pas là, ça ne marchera pas. Donc là aussi, il y a une éducation à l'écoute de soi, l'attention portée à soi, à ses signaux, pour pouvoir tirer le plus possible profit, surtout dans les situations difficiles, des petits répits et des petits moments où il est possible de se reposer.
Alors moi, j'ajoute juste que justement, quand je suis dans la situation que vous décrivez, bah, finalement, je me lève. Et je ne trouve pas vraiment de remède, sauf si en effet, je me lève et quelqu'un avec moi. Et donc, tu ne dors pas non plus. Et alors, on descend et on se tape un peu de bon pain avec des rillettes et un petit verre de vin, on discute. Et alors là, ça va beaucoup mieux. Et pour moi, il n'y a rien de plus défatigant qu'un fou rire avec quelqu'un qu'on aime. Mais le problème, c'est que ça ne se programme pas, un fou rire.
Et on ne l'a pas toujours à l'hôpital.
Non, mais le rire existe à l'hôpital, heureusement.
Une autre question ?
Merci beaucoup. Oui, en vous entendant, Monsieur Fiat, il y avait toujours le plaisir des mots en ce qui me concerne. Et je me disais que c'est intéressant que dans la langue française, le mot alerte caractérise à la fois un signal et un état de santé. Voilà, redevenir alerte après l'alerte, voilà. L'autre chose que je voulais dire, c'était plutôt en réaction à ce qui a été exprimé sur le sommeil. Je suis un petit peu gêné qu'on assimile toujours la restauration de l'énergie au temps de sommeil. Je crois qu'il y a, j'ai eu la possibilité récemment de faire un petit colloque, de faire un petit exposé auprès de personnel intervenant dans le domaine du soin, avec les risques de burn-out qu'on connaît. Et finalement, je crois qu'on a beaucoup dans nos journées aussi des mini-temps de récupération. Je me souviens d'une conférence de je ne sais plus qui disait tous les temps d'attente, et il y en a devant les ascenseurs, devant les photocopieuses, etc., peuvent être des temps de détente. Et je crois qu'à la fin d'une journée, quand vous avez saisi toutes ces micro-opportunités de vous détendre, et vous détendre, c'est quoi ? C'est vous relier au fond à vos cinq sens, à votre présence dans l'instant, eh bien, vos fins de journée sont infiniment plus dynamiques. Et je referai faire l'éloge d'une méthode dont on ne parle plus beaucoup, qui s'appelle la méthode Vitos, qui est une méthode qui travaille justement sur le retour aux sensations dans le présent. Voilà, qui est une méthode très très simple et très efficace aussi.
Vous parlez d'or, mais voyez comme cette proposition n'est pas celle que nous fait notre époque. Parce que notre époque voit plutôt dans l'attente une malchance qu'une chance. Attendre, c'est ce que ne supporte pas le manager, l'homme efficace, le souverain, parce que attendre, c'est toujours être mis dans une position de passivité, d'impuissance et d'ignorance. Ce qu'il y a de douloureux dans l'attente, c'est que je suis dans un état d'impuissance. Je n'ai pas le pouvoir de faire que l'ascenseur arrive aussi vite que je voudrais qu'il arrive. Donc je suis impuissant. J'ai beau trépigner, m'énerver, je suis ignorant. Ce qui est douloureux dans l'attente, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Parce que quand on sait combien de temps que ça va durer, là, ma foi, ça va. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Le statut de l'attente a changé dans les stations de métro de Paris depuis qu'on a ces petits écrans qui nous disent « prochain train, etc. » Et moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas ça. Ben, c'était terrible d'attendre parce que vous avez une correspondance ou alors un rendez-vous capital, amoureux, et puis si le métro n'arrive pas... Et puis surtout la passivité. Or, beaucoup de nos contemporains pensent que c'est terrible d'être passif, d'être ignorant et d'être impuissant. Dans des sociétés de la performance qui font l'éloge justement de la maîtrise, de l'autonomie, de l'indépendance, du savoir et tout ça, être placé dans une situation d'attente, ça provoque l'impatience. Or, il est vrai que la sagesse, c'est comprendre que l'attente pourrait être moins source de l'attente-impatience que de la patience attentive. Et la patience attentive, c'est, allez, un temps que je ne maîtrise pas mes données, je peux en faire une chance plutôt qu'une malchance. La patience attentive, c'est le fait de laisser du temps au temps de l'autre. Et finalement, c'est voir les vertus de la passivité, les vertus de l'impuissance, les vertus de l'ignorance. Car dans la condition humaine, il y a aussi de l'ignorance, il y a aussi de l'impuissance. Mais vous parlez d'or, mais comprenez que ce qui est réclamé chez nos jeunes qui vont entrer dans le marché du travail, c'est justement qu'ils soient dans la maîtrise, dans l'autonomie, dans l'efficacité et tout ça. Bref, on leur apprend plutôt ce que l'attente a de pénible que ce que l'attente a de beau.
Mais si je peux me permettre, il y a aussi des fatigues qui sont très culpabilisantes pour l'enseignant et pour la mère de famille nombreuse. On est tellement fatigué qu'on n'a pas, on perd des moments précieux qui ne se représenteront jamais pour réagir, dire, donner de l'affection, et ça laisse des traces chez celui qui ne les a pas eues.
Bien sûr, bien sûr.
C'est
bien triste.
Avec tout ce qui s'est dit. Je vais puiser dans mes restes juvéniles l'autorisation de prendre une autre disposition, de faire une petite pause, puisque la pause, on nous l'a bien indiqué, c'est comme la ponctuation dans une phrase. S'il n'y en a pas, ça va être beaucoup plus difficile de comprendre, ou le silence en musique. Donc on prend un petit quart d'heure, maximum, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes... Oui ? Oui ? ça ira, Laetitia, ça ira. 10 minutes.